Madame Guillon, chapitre troisième, voix passive de lumière. Les secondes âmes sont comme ces grandes rivières qui vont à pas lents et graves. Elles coulent avec pompe et majesté. On distingue leur course qui a de l'ordre. Elles sont chargées de marchandises et peuvent aller elles-mêmes dans la mer sans s'écouler dans d'autres rivières. Mais elles n'y arrivent que tard, leur marché étant grave et lent. De plus, il y en a quelques-unes qui n'y entrent jamais. Et pour la plupart, elles se perdent dans d'autres plus grands fleuves, ou bien elles aboutissent à quelques bras de mer. Plusieurs de ces rivières-ci ne servent qu'à porter des marchandises, et elles en sont très chargées. On les peut retenir par des écluses et les détourner par certains endroits. Telles sont les âmes qui sont dans la voie passive de lumière. Leur source est très abondante. Elles sont chargées de dons, de grâces et de faveurs célestes. Elles font l'admiration de leur siècle et quantité de saints qui brillent dans l'Église comme des étoiles lumineuses n'ont jamais passé ce degré. Ces âmes-ci sont de deux manières. Les unes ont commencé par la voie commune et ont été ensuite attirées à la contemplation passive par la bonté de Dieu qui a eu pitié de leur travail inutile, sec et aride, ou pour une récompense de leur première fidélité. Les autres sont prises comme tout à coup. Elles ont été saisies par le cœur et elles se sentent aimées sans avoir appris à connaître l'objet de leur amour, car il y a cette différence entre l'amour divin et l'amour humain, que le dernier suppose une connaissance de l'objet, parce que, comme il est au dehors, il faut que les sens s'y portent, et les sens ne s'y portent que parce qu'il leur est communiqué, les yeux voient et le cœur aime. Il n'en est pas de même de l'amour divin. Dieu, ayant une puissance absolue sur le cœur de l'homme, y étant son principe et sa fin, il n'est pas nécessaire qu'il lui fasse connaître ce qu'il est. Il le prend d'assaut sans donner de bataille. Le cœur est impuissant de lui résister, sans que Dieu use d'une autorité absolue et de violence, si ce n'est en quelques-uns où il l'a fait pour faire éclater son pouvoir. Il prend donc ses âmes de cette manière, les faisant brûler tout d'un coup. Mais pour l'ordinaire, il leur donne des éclairs de lumière qui les éblouissent et les enlèvent. Rien n'est si lumineux ni si ardent que ces âmes. Les directeurs sont charmés lorsqu'ils les ont sous leur conduite. Et comme le travail de ces âmes-ci n'est pas essentiel, aussi sont-elles plutôt parfaites selon le degré qu'elles ont à perfectionner. Car comme Dieu ne veut pas d'elles une perfection si éminente que de celles qui suivent, ni une purification si profonde, aussi leurs défauts sont plutôt épuisés. Ce n'est pas que ces âmes dont je parle ne paraissent bien plus grandes que celles qui suivent à ceux qui n'ont pas le discernement divin, car elles arrivent extérieurement à une perfection éminente, Dieu élevant leurs capacités naturelles à un degré éminent. Elles ont des unions admirables, Dieu s'accommodant à leurs capacités, qu'elles rehaussent extraordinairement en quelque manière. Mais cependant, ces personnes ne sont jamais anéanties véritablement, et Dieu ne les attire pas de leur être propre pour l'ordinaire, pour les perdre en lui. Ces âmes-ci font pourtant l'admiration et l'étonnement des hommes. Dieu leur donne don sur don, grâce sur grâce, lumière sur lumière, vision, révélation, paroles intérieures, extase, ravissement, etc. Il semble que Dieu n'ait pas d'autre soin que d'enrichir et d'embellir ces âmes, que de leur communiquer ses secrets. Toutes les douceurs sont pour elles. Ce n'est pas qu'elles ne portent de grandes croix, de fortes tentations, qui sont, comme les ombres qui rehaussent l'éclat de leur vertu, car ces tentations sont repoussées avec vigueur, ces croix sont portées avec force. Elles en désirent encore davantage. Elles sont toutes feu et flamme, toute langueur, tout amour. Elles ont un grand cœur, prêt à tout entreprendre. Enfin, en très peu de temps, elles font des prodiges et les miracles de leur siècle. Dieu se sert d'elles pour en faire, et il semble qu'il suffise qu'elles désirent quelque chose pour que Dieu leur accorde. Il semble que Dieu fasse son plaisir d'accomplir tous leurs désirs et de faire toute leur volonté. Elles sont dans une mortification très grande. Elles portent de très grandes austérités, les unes plus, les autres moins, selon leurs états et leurs degrés. Car dans chaque état, il y a bien des degrés, et les uns arrivent à une perfection bien plus éminente que les autres. Dans la même voie, il y a bien des degrés différents. Le directeur peut beaucoup nuire à ces âmes, ou beaucoup les aider, parce que, s'il n'entend pas leur voix, ou il les combattra et leur fera bien de la peine, comme l'on fit à Sainte Thérèse, ce qui pourtant n'est pas le plus à craindre, ou bien il les admirera trop et leur fera connaître à elles-mêmes le cas qu'il en fait. Et c'est ici où est le grand dommage que l'on fait aux âmes, parce qu'on les amuse autour d'elles, les arrêtant aux dons de Dieu au lieu de les faire courir à Dieu par ses dons. Le dessein de Dieu dans la distribution et même dans la profusion qu'il leur fait de ses grâces est pour les faire avancer vers lui, mais elles en font un usage tout différent. Elles s'y arrêtent, elles les considèrent, les regardent et se les approprient. D'où viennent les vanités, les complaisances, la propre estime, la préférence que l'on fait de soi aux autres, et souvent la perte et la ruine de l'intérieur. Ces âmes-ci sont admirables pour elles-mêmes, et quelquefois, par une grâce spéciale, elles peuvent beaucoup aider les autres, particulièrement si elles ont été pécheresses. Mais pour l'ordinaire, ces âmes ne sont pas si propres à la conduite que celles qui suivent. Car comme elles sont très fortes en Dieu et dans un degré éminent, elles ont de l'horreur pour le péché, et souvent de l'éloignement pour les pécheurs, et certaines antipathies qui sont de grâce. Si ces âmes sont supérieures, elles n'ont pas une certaine compassion de mère pour les pécheurs. Et comme elles n'ont pas éprouvé les misères qu'on leur découvre, elles s'en étonnent et s'en formalisent. Elles veulent une perfection trop forte des âmes et ne les acheminent pas peu à peu. Et s'il leur tombe entre les mains des âmes dans l'affaiblissement, elles ne les aident pas selon leur degré et selon les desseins de Dieu, et même souvent les écartent de leur voie. Elles ont peine à converser avec les âmes imparfaites, préférant leur solitude et leur vie à tous les accommodements de charité. Si on entend parler ces personnes et que l'on ne soit pas divinement éclairé, on les croira dans les mêmes voies des dernières et même plus avancées. Elles se servent des mêmes termes de mort, de perte, d'anéantissement, etc. Et il est bien vrai qu'elles meurent en leur manière, qu'elles s'anéantissent et se perdent, car souvent, leurs puissances sont perdues ou suspendues à l'oraison. Elles perdent même l'usage de s'en servir et d'opérer avec, car tout ce qu'elles reçoivent, c'est passivement. Ainsi, ces âmes sont passives, mais en lumière, en amour, en force. Si vous examinez de près les choses et que vous conversiez avec ces personnes, vous verrez qu'elles ont des volontés très bonnes et même admirables. Elles ont des désirs des plus grands et éminents du monde. Elles portent la perfection où elle peut aller. Elles sont détachées. Elles aiment la pauvreté. Cependant, elles sont et seront toujours propriétaires, et même de la vertu, mais d'une manière si délicate que les seuls yeux divins le peuvent découvrir. La plupart des saints, dont les vies sont si admirables, ont été conduits par cette voie. Ces âmes sont si chargées de marchandises que leur course est fort lente. Que faut-il donc faire à ces âmes? Ne sortiront-elles jamais de cette voie? Non, sans un miracle de la Providence, et sans une conduite d'une direction divine, qui porte ces âmes non à résister à ces grâces, non à les regarder, mais à les outrepasser, en sorte qu'elles ne s'y arrêtent pas un moment. Car ces vues sur elles-mêmes sont comme des écluses qui empêchent l'eau de couler. Il faut que le directeur leur fasse connaître qu'il y a une autre voie plus sûre pour elles, qui est la foi, que Dieu ne leur donne ses grâces qu'à cause de leur faiblesse. Il faut, dis-je, que le directeur les porte à passer du sensible au surnaturel, de l'aperçu et assuré aux très profondes et très assurées ténèbres de la foi, qu'ils ne paraissent faire aucun cas de tout cela, qu'ils ne les en fassent pas écrire, à moins que l'âme ne fût dans un avancement si notable dans sa voie qu'ayant des connaissances nécessaires à être sues, il les leur fasse écrire. Encore est-il mieux qu'elles ne les écrivent point, car aussi bien ce n'est pas sur ces connaissances qu'il faut assurer rien, mais sur la Providence. Il est bon de connaître les desseins de Dieu, de travailler à les exécuter, mais c'est la seule Providence qui en doit fournir les moyens et les faire exécuter. C'est là où il ne peut y avoir de tromperie. Il est aussi inutile de vouloir discerner si ces choses sont de Dieu ou non, puisqu'il faut les outrepasser, car si elles sont de Dieu, elles s'exécuteront par la Providence en nous y abandonnant. Et si elles n'en sont point, nous ne serons pas trompés, ne nous y arrêtons pas. Ces âmes-ci ont bien plus de peine d'entrer dans la voie de foi que les premières, et pour l'ordinaire, elles n'y entrent jamais, à moins que Dieu n'ait quelque dessein extraordinaire sur elles, et qu'il ne les destine à la conduite des autres. Car comme ce qu'elles ont est si grand et si fort de Dieu, qu'elles en sont certifiées, et qu'elles ont même vu d'accomplir ce qu'elles ont prédit, elles ne croient point qu'il y ait rien de plus grand dans l'Église de Dieu. C'est pourquoi elles s'y tiennent attachées. Ces personnes sont sages, prudentes. Elles ont souvent un zèle trop fort contre les faibles et les pécheurs. Elles ne feraient pas une fausse démarche, tant elles sont compassées. Mais ce qu'elles veulent, elles le veulent très imparfaitement et très fortement. Ô Dieu, que de propriétés spirituelles qui paraissent de grandes vertus aux âmes, qui ne sont pas éminemment éclairées, et qui paraissent de grands défauts et bien dangereux à celles qui le sont. Car les âmes de cette voie regardent comme vertu ce que les autres considèrent comme des défauts subtils. Et même la lumière ne leur en est pas donnée, et lorsqu'on leur en parle, elles n'y entrent pas. Ces âmes sont fermes dans leurs opinions, et comme leur grâce est grande et forte, elles s'en tiennent plus assurées. Elles ont des règles et des mesures dans leurs obéissances, et la prudence les accompagne. Enfin, elles sont fortes et vivantes en Dieu, quoiqu'elles paraissent mortes. Elles sont bien mortes, quant à leur opérer propre, recevant les lumières passivement, mais non quant à leur fond. Ces âmes ont aussi souvent le silence intérieur, la paix savoureuse, certains enfoncements en Dieu qu'elles distinguent et expriment bien. Mais elles n'ont pas cette pente secrète à n'être rien, comme les dernières. Elles veulent bien être rien par un certain anéantissement aperçu, une humilité profonde, un certain abattement sous le poids immense de la grandeur de Dieu, qui leur fait d'autant plus de peine à porter qu'elles sentent plus fortement ce poids de Dieu. Tout cela est un anéantissement où on loge sans être anéanti. On a le sentiment de l'anéantissement, mais on n'en a pas la réalité, car cela soutient encore l'âme, et cet état lui est plus satisfaisant qu'aucun autre, car il est plus sûr, et elles le savent bien. Ces âmes, pour l'ordinaire, n'arrivent en Dieu qu'en mourant, si ce n'est des âmes privilégiées que Dieu destine à être les lumières de son Église, ou pour les sanctifier plus éminemment. Et celles-là, Dieu les dépouille peu à peu de toute leur richesse. Mais, comme il y en a peu d'assez courageuses, après tant de biens pour les vouloir perdre, peu aussi et moins que l'on ne peut dire, passent ce degré, le dessein de Dieu étant peut-être qu'elles ne le passent pas, et que, comme il y a plusieurs demeures dans la maison de son père, elles n'occupent que celle-ci. Ou bien, faute de courage, faute de directeur éclairé, ceux qui les conduisent croiraient peut-être les avoir perdus s'ils les voyaient déchoir de ses dons et de ses grâces éminentes. Laissons-en les causes dans le dessein de Dieu. Quelques-unes de ces âmes n'ont pas ces dons gratuits, mais seulement une force généreuse et intime, un amour secret, doux et paisible, général et vigoureux, qui consomme leur perfection et leur vie. Ces âmes sont adroites à cacher leurs défauts et à les déguiser, y donnant toujours quelques couleurs ou prétextes. Les épreuves des âmes dont je viens de parler sont aussi extraordinaires que leurs états. Elles viennent du démon, et quoique elles soient d'une extrême violence, et tout autre en apparence que celles qui doivent suivre, elles leur servent cependant encore de soutien. Elles sont livrées au démon, qui exerce sur elles ce que peut sa malice, mais elles sont gardées tout entières malgré les effroyables excès de ces esprits malins. Il faut une lumière bien grande pour discerner le soutien caché dans un état si terrible, mais l'expérience le fait connaître.